France Musique.
Écoutez le poète Rainer Maria Rilke. Au commencement, dans des petits cahiers minces que publiait le garçon de 17-18 ans, des poèmes aux brèves strophes, se berçant doucement dans la mélodie, comme des fleurs au premier vent, nous dit Stefan Zweig. De tendres ambiances colorées, légèrement portées par une musique douce. Puis est venu le temps d'un plus grand souci dans le choix des mots, de ces pauvres mots qui se privent de tout dans le quotidien, note le poète. Enfin, la rime étrange, tortueuse, souvent répétée, qui par ses accents rend ses poèmes plus sonores et les pousse doucement vers la musique. Ainsi, dans le recueil « Pour me fêter », Rilke compose des poèmes où le sens se détache du mot pour laisser place au rythme et au son. Des poèmes qui ne veulent pas être étudiés pour leur sens, mais entendus comme à Lied. Que joues-tu, mon garçon ? Passait dans le jardin comme des pas nombreux des ordres chuchotés. Que joues-tu, mon garçon ? Ton âme, c'est, vois donc, prise dans les tuyaux de la flûte de Pan. Bien que fasciné par le pouvoir qu'exerce sur lui la musique, Rainer Maria Rilke l'oppose d'abord à la peinture. Seul modèle de création à ses yeux, alors que la musique décompose la réalité vécue pour la transformer en une vibration universelle. Rilke écrit dans sa monographie « Des peintres de Worpswede » publiée en 1903, « La musique décompose en virtualité tout ce qui est concrètement présent, et ces virtualités croissent et croissent, se multiplient par mille, jusqu'à ce que le monde entier ne soit plus rien qu'une profusion qui vibre doucement et à perte de vue, un océan de virtualité dont on a besoin de saisir aucune. » Il oppose cet océan de virtualité à la peinture qui, au contraire, convertit tout en réalité, se remplit, s'intensifie. À une époque où Rilke apprend auprès des artistes à devenir un homme du regard, à la différence de Nietzsche qualifié d'homme de Louis, la musique représente le danger de l'annihilation de la volonté créatrice pour celui qui n'est pas musicien. La perte des repères concrets de la réalité matérielle ne peut que plonger l'artiste dans cet océan où il court le risque de se noyer. Puis viennent les suaves promesses de la musique, qu'elles paraissaient exaucées avant qu'on les eût souhaitées, nous dit le poète. De poursuivre, ces voix douces et bienheureuses qui suscitaient toujours de nouveaux désirs pour leur ôter toute pesanteur. Rilke peut encore résister aux promesses fallacieuses de la musique. Le nageur n'est-il pas le poète lui-même, confronté à l'immensité informe de l'océan et mettant ainsi en péril la recherche d'une forme plastique qui inspire sa démarche poétique? Rilke ne nie pas la beauté et l'attrait de la musique. En 1902, âgé à peine de 30 ans, il rencontre Rodin, celui que l'on vient d'introniser, maître de la sculpture. Son génie, associé à une rare capacité de travail, fascine le jeune poète au point d'en faire son mentor. Il n'a dès lors de cesse de traduire par les mots toute la poésie créatrice de Rodin. Il note ainsi dans sa correspondance que l'art est indissociable des notions de travail et de difficulté. Surtout, l'art doit conduire à l'achèvement, ce que la musique, selon lui, ne permet pas. Puis Rilke découvre au cours de ce même séjour parisien l'œuvre de Cézanne et de Van Gogh. Son écriture poétique se fonde dès lors sur la volonté de transposition dans le domaine du verbe des leçons de vision du sculpteur et des peintres. Le matériau verbal doit être travaillé par le poète dans le souci de donner à voir ce qu'il apprend lui-même à percevoir. Le poème acquiert ainsi le statut d'œuvre d'art achevée au même titre qu'une sculpture de Rodin. Or, Rilke découvre le chant grégorien à Paris en 1907 à Notre-Dame. Il y voit une traduction directe des sentiments vécus, correspondant à ses yeux à la transposition de la réalité effectuée dans le geste du peintre. Le 3 novembre 1909, il écrit à son épouse Clara que Rodin possède à présent un phonographe et quelques disques avec de vieux chants grégoriens que personne n'aime et qu'en dehors du vendeur, seul le pape possède. Il décrit ensuite la voix qui sort en criant, en pleurant, comme le vent issu d'une fugue du monde. À la suite de l'audition du disque chez Rodin, Rilke dit en français une phrase qui plut au sculpteur, qui la répéta. « C'est large, comme le silence. Cette remarque illustre le statut particulier de la musique, qui pour Rilke, comme le silence, englobe et surplombe le monde. La parole, et singulièrement la parole poétique, est une manière de structurer le silence. De même, son rythme doit-il s'inscrire sur la toile de fond de la musique, selon l'image donnée dans son texte, les notes sur la mélodie des choses. Le poème Wendung, ou retournement, marque le passage de l'œuvre de la vision à l'œuvre du cœur. Rilke souligne d'ailleurs l'importance du titre dans une lettre adressée à Lou Andrea Salomé, celle qui fut, selon Freud, la muse et la mère attentive au poète. Œuvre de la vision est faite. Fais maintenant œuvre de cœur sur les images en toi, ces prisonnières, car tu les as vaincues. Mais maintenant, tu ne les connais pas. Ce poème marque le tournant esthétique de Rilke. Il le compose le 20 juin 1914 à la suite de l'intense échange épistolaire avec la pianiste Magda von Attingberg. Il l'appelait Benvenuta. Il considère ainsi achever la période de l'apprentissage de la vision, cette phase où le modèle de toute création artistique est la représentation picturale ou sculpturale. Rilke opère alors un retournement qui consiste non plus à donner forme, une forme achevée, délimitée au visible, mais à faire entrer le visible dans l'invisible. De Benvenuta, qui lui écrit une lettre d'admiratrice éprise de son œuvre poétique, Rilke attend qu'elle devienne son guide vers la musique, qu'elle l'aide à mieux comprendre et à appréhender le pouvoir qu'il lui prête. Ainsi, dans une lettre du 1er février 1914, il exprime l'idée qu'une note jouée sur un violon peut décider du destin d'un homme et rappelle l'impression de force et de violence dégagée par des morceaux de musique ancienne entendus en Italie ou en Espagne. Pour Rilke, Beethoven détient un pouvoir, une puissance supérieure à tout autre. En faisant part de ses conceptions à Benvenuta, Rilke espère entretenir un dialogue qui lui permette de percer les mystères de la composition musicale, comme son dialogue avec Rodin lui avait permis de comprendre le ressort de la création plastique. Rilke nourrit l'espoir de réaliser dans le domaine de l'ouïe, de l'écoute, de l'oreille, le travail qu'il a accompli dans le registre de la vue, de la vision, de l'œil. Mais Rilke exprime une différence de nature entre la musique et la musicalité de sa poésie. Il écrit alors « La sonorité lyrique n'a rien à voir avec la mélodie en musique. Ses lois sont autres et ses effets sont différents de ceux d'une sonate ou d'une symphonie. » Rilke témoigne ainsi d'une culture musicale et d'une fréquentation assidue de la musique. Il assiste en effet à de nombreux concerts en compagnie de sa protectrice, la princesse Thurn und Taxis, mais aussi avec Benvenuta, qu'il considère comme un guide dans l'univers de la musique. La difficulté du trajet spirituel de Rilke est indissociable d'une lutte contre lui-même. À la lecture de deux lettres de Rilke adressées en 1914 et 1926 à la musicienne Magda von Attingberg, on mesure à la fois le désarroi du poète devant l'inanité de sa propre oreille et l'espoir qu'il place dans le développement de lui. Il faut, voyez-vous, que vous preniez dans le sens le plus littéral ce que je vous écrivais récemment de mon ouïe. Qu'elle est comme la plante des pieds d'un nourrisson. Cela ne signifie pas seulement aussi neuve, aussi antérieure à tout usage, mais aussi maladroite, inutilisable, gauche et finalement tout à fait incapable de marcher. Rilke, dont la vocation a été jusque-là inséparable du modèle de la sculpture de Rodin, sait que sa poésie se fera désormais par l'oreille ou ne se fera pas. Il attend de celle qu'il nomme Benvenuta qu'elle éduque son ouïe de nourrisson et la conduisent vers une maturité de l'écoute, dépositaire d'une maturité possible de l'œuvre. Si l'œuvre de Rilke est exemplaire, c'est qu'elle a pour origine une conscience aiguë des difficultés des rapports entre poésie, audition et musique. Pour rendre compte du parcours mental accompli, que l'on juge de sa lettre inquiète à Benvenuta, à la tonalité extatique de la lettre de 1926 à Marina Tsvetaeva. Le poète y souligne l'état de grâce dans lequel il a écrit les sonnets à Orphée. La force naturelle de mon être, en quelques semaines, offrit le couronnement de sa plus pleine saison à la croissance, d'abord de l'Orphée, puis des élégies. Comme tout cela guérit. Mais Rilke se méfie du pouvoir de la musique, comme il se méfie du pouvoir de l'amour. L'un comme l'autre peut signifier la perte de soi, la dissolution de l'être. Rilke craint les conséquences ultimes ou les excès de ses propres sentiments, voire de sa propre sentimentalité. Ainsi, dans le sublime est un départ, écrit-il. Toute musique est un départ, non vers nous, vers l'espace.
À réécouter sur francemusique.fr.